Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Marie-Christine de Heuvels. Je suis très heureuse de recevoir dans le studio aujourd'hui Annick Liffrand. Bonjour Annick.
Bonjour Marie-Christine.
Aujourd'hui, tu vas venir nous parler à partir du texte sur les pèlerins d'Emmaüs, une émission sur un thème original.
Oui, alors c'est un thème original parce que il y a assez longtemps, j'ai entendu un exposé d'un pasteur, professeur de théologie, qui s'appelle André Gounel, sur le vaste thème « Qu'est-ce que la foi ?». Et j'ai retravaillé ce thème sur ce texte d'Emmaüs, que vous connaissez certainement. Et je l'ai retravaillé à partir des repères qui nous sont donnés par justement André Gounel. André Gounel fait tout un raisonnement que je vais essayer de vous redire, de refaire avec vous, pour nous dire que finalement, la foi, c'est une rencontre avec Jésus-Christ, comme on la voit ici dans les compagnons d'Emmaüs. Donc, je vais essayer de partager avec vous les réflexions qui me sont venues au sujet de ce texte et au sujet de toutes les connaissances d'André Gounel.
Il est vrai que dans nos églises, nous entendons très souvent le mot foi. Foi en un Dieu unique, foi en Jésus-Christ.
Oui, foi en Jésus-Christ au point que un théologien contemporain, Gerhard Hebling, a écrit que le christianisme, c'est la religion de la foi. En effet, il y existe plusieurs religions dans le monde et chacune met plutôt l'accent sur un aspect particulier. Par exemple, la religion qui met l'accent sur l'obéissance,
comme l'islam.
Voilà, l'islam. Celle qui insiste sur la méditation, sur la contemplation, sur la sagesse. Vous avez deviné, c'est le
bouddhisme.
Le bouddhisme. D'autres privilégient les rites et les célébrations, comme le judaïsme. Lui, le christianisme, n'ignore pas tous ces éléments, l'obéissance, la méditation, la sagesse, les rites, mais il se centre sur la foi en Jésus-Christ.
Alors, pour nous les chrétiens, comment pourrions-nous définir la foi ?
Alors, à cette question, finalement, chacun a sa propre réponse. André Gounel, lui, a retenu trois réponses différentes. Les deux premières sont des réponses traditionnelles, mais incomplètes. Et la troisième, qui me paraît plus juste, est celle qui est illustrée par les compagnons d'Emmaüs. La première réponse est de dire que la foi, c'est un ensemble de croyances. C'est le point de vue de Thomas d'Aquin ou d'Emmanuel Kant. La deuxième réponse est de dire que la foi, c'est un sentiment. C'est le point de vue de Pascal et c'est un point de vue qui était très vivant au siècle dernier. Et puis finalement, la réponse de Gounel, c'est de dire que la foi, c'est une rencontre avec Jésus-Christ. En fait, on peut remarquer que ces trois points de vue se complètent, mais on va essayer de les analyser chacun les uns après les autres.
Va nous commenter successivement donc ces trois aspects de la foi. Notre premier point de vue, c'est de dire que la foi est un ensemble de croyances. On dit bien croire en Dieu.
Oui, croire en Dieu, ça veut dire qu'on souscrit à des doctrines qu'on tient pour vraies. On souscrit à un certain nombre de dogmes, comme par exemple la Trinité, la mort expiatoire du Christ, la vie éternelle, le royaume des cieux. Et en fait, ce que le chrétien croit, on le retrouve dans des déclarations ou des confessions de foi, ou alors dans des credos. Alors, c'est vrai que les catholiques n'ont que deux credos, mais chez les protestants, les credos varient selon les églises, les tendances théologiques, selon les époques, et je dirais presque selon ce qu'on croit.
D'ailleurs, l'Église protestante unie de France, qui est donc la réunion de l'Église réformée et des Églises luthériennes, est en train d'élaborer une nouvelle déclaration de foi depuis peu.
Oui, cette union est assez récente. Donc du coup, on a demandé à chaque paroisse d'essayer de rédiger une nouvelle déclaration de foi avec des mots d'aujourd'hui, des mots actuels, pour dire qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui compte pour nous en tant que chrétiens dans la société aujourd'hui. Et il y a une grande consultation de toutes les paroisses qui se fait, qui va remonter au niveau des synodes, et le synode national adoptera une nouvelle déclaration de foi. Alors, c'était une petite digression par rapport à l'actualité. Mais on va essayer de reprendre cette notion de foi qui est un ensemble de croyances. C'est quelque chose qu'on trouve surtout au Moyen-Âge, chez le théologien Thomas d'Aquin, et puis chez le plus grand philosophe des temps modernes, Emmanuel Kant. À 5 siècles de distance, leurs propos se rejoignent. La foi, c'est un ensemble de croyances. Mais pour essayer d'éclaircir leurs propos, l'un et l'autre essayent de définir la foi d'un côté par rapport à la science et de l'autre côté par rapport à l'opinion.
Alors, quelle est la relation entre la foi et la science? Ne sont-elles pas toutes les deux à l'opposé?
On pourrait le croire. En fait, la science consiste à être sûr de ce qui est sûr. Le savant observe, il constate, il analyse, il démontre. La connaissance scientifique porte sur des faits vérifiés. Elle se fonde sur des preuves solides qu'on ne peut pas mettre en doute. La science s'impose à tous, elle établit des certitudes. Par exemple, la science explique la pollution, les groupes sanguins ou alors les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors effectivement, on pourrait croire que la foi s'oppose à la science, car la foi ne se démontre pas. On ne peut pas démontrer scientifiquement de l'existence de Dieu. Mais la foi a ça de commun avec la science que c'est une certitude. La science est une certitude et la foi aussi.
Alors parle-nous maintenant du rapport entre la foi et l'opinion.
Alors, comme la foi, l'opinion est incertaine. L'opinion, en fait, elle relève du discutable, du douteux. Quand je dis, par exemple, je m'attends à des changements politiques dans les années à venir, bon, effectivement, il y a des fortes chances pour que ça arrive, mais on ne sait pas précisément lesquelles. Quand on dit la crise que l'on traverse risque d'être de longue durée, ou bien quand on dit je trouve que ce vase est plus beau que celui-là. En fait, il s'agit d'estimations, d'appréciations qui varient selon chaque individu. Les opinions des autres peuvent me paraître légitimes, mais il y en a une que j'ai fait mienne. Je peux donc changer d'avis. Ici, je ne dis pas « je sais que », mais « je pense que ». Donc, j'admets finalement une possibilité d'erreur. Comme dans la foi, le doute fait partie de la foi.
Et pourtant, le dimanche, quand je suis au culte, je peux dire « je suis sûre de la présence de Dieu parmi nous ce matin ».
Oui, parce que entre l'opinion et la science, saint Thomas d'Aquin et Kant placent la foi. La foi, c'est la certitude de quelque chose qui ne peut se prouver. Quand je dis effectivement « je suis sûre de la présence de Dieu parmi nous ce matin », la foi, c'est plus qu'une opinion, c'est une conviction que je fais mienne. La foi, finalement, c'est être sûr de quelque chose qui, objectivement, scientifiquement, n'est pas sûr. La foi, c'est l'assurance des choses que l'on ne voit pas. C'est Saint Paul qui le dit, c'est un ensemble de croyances. Finalement, j'en reviens à mon point de départ.
Mais quand je lis le Nouveau Testament, je m'aperçois que la foi, c'est bien autre chose que les dogmes.
Oui, la foi, c'est des sentiments, la foi, ce sont des récits, ce sont des rencontres, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Quand Jésus dit à la femme malade « ta foi t'a sauvée » ou quand il dit à ses disciples « homme de peu de foi, esprit sans intelligence, cœur lent à croire », quand Jésus dit tout ça, il ne se préoccupe pas des croyances ou des doctrines. Il n'interroge pas ces personnes sur des dogmes, comme sur la naissance virginale, sur la prédestination. Il ne mentionne pas le credo. Donc, il nous faut chercher une autre réponse pour essayer de définir la foi.
Quand on définit la foi par des croyances, je trouve ça très intellectuel, très cérébral, c'est réfléchi. Parce que la foi, c'est aussi des sentiments, une émotion.
Oui, alors bien sûr que c'est une émotion. On est joyeux quand on a la foi. Et voilà ce que c'est que la foi. Certains disent c'est Dieu sensible au cœur et non à la raison. Cette tendance, en fait, qui était une phrase de Pascal, Dieu sensible au cœur et non à la raison, cette tendance fut largement reprise par les romantiques. Ainsi, dans le génie du christianisme, Chateaubriand cherche à démontrer que le christianisme, c'est la religion la plus aimable, la plus touchante, celle qui procure des émotions les plus douces et les plus fortes. Et on a cultivé une sorte d'affectivité religieuse. À une époque, il fallait que les croyants sanglotent, ils versaient des larmes amères de repentir, suivies de douces larmes de joie. Et le pasteur André Gounel raconte que son arrière-grand-père, qui était pasteur dans le sud de la France vers 1870, notait soigneusement dans son journal quand les gens pleuraient au cours de ses cultes. Il y voyait le signe d'une foi réelle et vive, et plus les gens pleuraient, plus le culte était réussi, évidemment, plus le pasteur était content. Donc pour cette seconde réponse, la foi consiste à faire des expériences religieuses émouvantes. Il faut éprouver des sentiments d'affection pour Dieu et pour le Christ.
On retrouve aussi cette tendance dans le vocabulaire utilisé pour le catéchisme des enfants. On leur dit « Jésus est ton ami » ou « Dieu est dans ton cœur ».
Oui, c'est quelque chose qui parle aux enfants, qui cultive aussi un certain côté mystique et qui peut faire des racines de la foi. Mais on a aussi vivement réagi contre cette sentimentalité, ou que certains disent même cette sensiblerie religieuse. Et entre les deux guerres, dans le protestantisme, on s'est beaucoup interrogé, faut-il éprouver des émissions pendant un culte? Certains disent oui, sinon on n'a pas vraiment participé au culte. On n'a fait qu'assister en spectateur. Comme un païen, un bon culte doit émouvoir. Mais d'autres disent non, le culte consiste à annoncer et recevoir la parole de Dieu, nos émotions risquent de parasiter et de brouiller l'écoute, Cette réaction d'ailleurs est allée trop loin. Elle a parfois conduit à des cultes froids, austères, et certains sont allés chercher ailleurs, comme par exemple dans des églises évangéliques ou chez les charismatiques, des formes de piété plus chaleureuses et plus exubérantes. Pourtant, on ne peut pas totalement faire abstraction de ces deux réponses, car la foi implique des croyances et elle comporte aussi des émotions. Mais on ne peut la définir seulement par l'adhésion à des doctrines ou à des expériences sentimentales.
Effectivement, dans le Nouveau Testament, la foi n'est pas une affaire d'émotion. Les croyants ne pleurent pas. Leur foi est autre chose qu'une effusion du cœur.
Et le Nouveau Testament décrit dans des récits évangéliques que finalement la foi, c'est une rencontre. Jésus rencontre les gens et cette rencontre fait jaillir, fait naître quelque chose en eux, une vie nouvelle. Il faut penser à toutes les rencontres racontées dans les miracles, à la rencontre aussi avec Zachée, avec la Samaritaine, avec la Syro-Phénicienne, avec les lépreux, et aussi, justement, à la rencontre
avec les pèlerins, les disciples d'Emmaüs. Comme pèlerin ou disciple, ça dépend du terme qu'on veut employer. Donc c'est le texte que tu as choisi aujourd'hui. Et donc ces disciples d'Emmaüs rencontrent aussi Jésus, mais sans le savoir.
Effectivement, les pèlerins d'Emmaüs rencontrent Jésus sans le savoir. C'est un récit qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Est-ce que tu peux nous le lire?
Oui, les versets 13 à 35. Et voici que, ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village de nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'y est passé ces jours-ci. »« Quoi donc ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, voici le troisième jour que ces faits se sont passés. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés. S'étant rendues de grand matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le déclarent vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et il leur dit, « Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela et qu'il entra dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils approchèrent du village où ils se rendaient, et lui fit mine d'aller plus loin. Ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir vient et la journée déjà est avancée. » Et il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux furent ouverts, et ils le reconnurent, puis il leur devint invisible. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui leur dirent, « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. » Et eux racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain.
Merci Marie-Christine. Alors donc, la foi, effectivement, c'est une rencontre avec Jésus-Christ, comme nous le dit ce texte. Et si on étudie toutes ces rencontres décrites dans le Nouveau Testament, on voit qu'elles présentent trois caractéristiques. La première caractéristique, c'est que les gens rencontrent Jésus parce que, avant, ils ont entendu parler de lui. Et dans ce récit, justement, des pèlerins d'Emmaüs, les voyageurs sont perplexes parce qu'ils ne savent que penser de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ. Ils sont même inquiets. Et on peut remarquer que dans la plupart des miracles, les malades ont entendu parler de Jésus et viennent vers lui pour être guéris. L'apôtre Paul dit « La foi vient de ce que l'on entend ». Cela nous renvoie finalement à notre responsabilité, c'est-à-dire nous qui connaissons Jésus, il faut faire attention à la manière dont nous en parlons. Cette manière permet à la foi de se propager.
Donc avoir la foi, c'est aussi être responsable d'un témoignage.
D'un témoignage qui conduit à Jésus-Christ. La deuxième caractéristique des rencontres avec Jésus-Christ, c'est que dans chaque rencontre, Dieu ne demande rien. Jésus ne demande rien, il n'exige rien. Il secourt, il donne, il apporte la paix, la guérison, le salut. Et c'est vrai que dans notre texte, Jésus donne la communion après avoir expliqué les Écritures sans que les compagnons n'aient rien demandé. Finalement, ce que Jésus nous donne, c'est la grâce. La foi ne consiste pas à penser, à faire, à sentir, elle consiste à accueillir le Christ, à recevoir ce qu'il nous donne gratuitement. C'est ce que dit Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On ne possède donc pas la foi, on l'accueille. Elle arrive un peu comme un étranger qui s'installe chez vous et qui devient petit à petit familier, intime. Le croyant vit ce qui lui a été donné.
Mais est-ce qu'on peut vivre la foi tout seul, individuellement ?
Non, c'est le troisième aspect de la foi, c'est-à-dire que la foi a un aspect personnel, individuel, c'est sûr, mais elle a aussi une dimension collective. Elle nous fait rentrer dans une communauté, dans l'Église. On ne peut pas la vivre seule. Et d'ailleurs, dans tous les récits de miracles, le miraculé, une fois guéri, ne peut pas s'empêcher d'aller proclamer sa foi à la foule. La guérison provoque un attroupement, une foule qui suit Jésus, et ainsi il y a de nouvelles rencontres. Le miraculé ne reste jamais seul. Dans notre récit d'Emmaüs, les deux compagnons, après avoir reconnu Jésus-Christ, retournent à Jérusalem pour retrouver les autres disciples. Ainsi, après avoir rencontré Jésus-Christ, le croyant rejoint l'Église. La foi est fondamentalement personnelle, mais elle nous fait rentrer dans une communauté, dans l'Église. Donc en conclusion, je dirais que dans le Nouveau Testament, la foi c'est une rencontre, celle avec Jésus. Une rencontre dont nous devons de témoigner autour de nous. Une rencontre où l'on reçoit la grâce gratuitement une rencontre qui nous conduit vers une communauté, vers l'Église. Chers amis auditeurs, merci beaucoup pour cette rencontre, à la radio cette fois-ci, et à bientôt.
Merci Annick pour ce beau témoignage. Je rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins au temple 20 rue Saint-Thomas à Chartres à 10h30. Je vous dis au revoir et à bientôt.